C'est vraiment un privilège que j'ai d'être avec vous ce matin, partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je peux pas vous vendre le scoop, parce que je pense que vous savez de quoi est-ce que ce matin on va parler. Un personnage que j'aime bien dans la parole de Dieu, à qui que je peux quand même bien m'identifier. Mais ce matin, avant de commencer à parler Jonas, j'aimerais vous parler de quelque chose de spécial. J'aimerais vous parler d'un objet que j'ai déjà utilisé lorsque j'étais dans l'armée. V'là plusieurs années, j'étais en forme. J'étais fringant. Quand j'étais jeune, à l'âge de 13 ans, je suis rentré dans les cadets de l'air, puis ça m'a toujours fasciné, là, les uniformes d'armée. Puis là, les fins de semaine, j'allais coucher avec mes chums dans le bois, la grosse misère, là, à moins 20, pas de sleeping bag, on se faisait des igloos, puis on dormait à belle étoile, pas de sleeping. J'ai eu fret cette fête-là. Mais ça m'a toujours là, vraiment attiré. Puis à l'âge de 16 ans, je me suis enrôlé dans la milice, dans la réserve, des Forces armées canadiennes, j'étais fantassin, là. J'étais comme dans les films, là, le gars avec son gun, puis là, on apprenait à ramper, puis on avait des exercices. J'ai jamais été au combat, j'ai jamais été à la guerre, mais j'ai fait l'entraînement pour y aller, puis j'étais fasciné par tout ce qui se passait. Et un des outils qui m'avait vraiment fasciné, puis que j'aimais voir et utiliser, puis c'était quand même assez rare, c'était les lunettes de vision de nuit. Parce que vous savez, dans l'armée, quand tu te prépares à avoir une attaque ou quand tu attaques, tu fais pas ça en plein jour, là. Tu fais pas ça, là, tu sais, à 3 heures l'après-midi, là. Il y a deux moments que tu fais ça, c'est au lever ou au coucher du soleil. Parce que là, le soleil, il se lève, il se couche, puis là, la vision est en train de se rétablir. Et pour pouvoir attaquer ou se défendre le matin, toute la nuit, on a besoin de se rendre et de marcher dans le bois. Puis on utilise ce qu'on appelle, en anglais, on appelle ça des « night vision goggles ». En français, le bon terme, c'est des lunettes de vision de nuit. Puis je peux juste vous dire que ceux au Canada ne sont pas comme ça. Okay? Ça, c'est probablement des lunettes de vision de vie américaines, parce qu'au Canada, là, ça date probablement de la Première ou de la Deuxième Guerre, ce qu'on avait. Mais ce qui est fascinant avec cet objet-là, c'est qu'on le met sur notre tête où on peut s'en servir comme jumelle, puis on est capable de voir la nuit. On est capable de voir dans un noir total. Ce que cet instrument fait, c'est qu'il amplifie la lumière ambiante alentour. Si je me rappelle bien, là, de mémoire, je crois que ça amplifie la lumière de 10 000 fois alentour de nous. Donc, simplement une étoile, simplement la lune qui brille pendant la nuit, c'est assez pour pouvoir me donner une vision complète de ce qui se passe en avant de moi. Ça amplifie la lumière. Et si on est dans une, mettons qu'on est dans une chambre totalement noire, complètement fermée, sans aucune lumière, on a une petite switch sur le côté qu'on allume, puis c'est une mini lumière, puis ça fait qu'on est capable de voir partout. Et c'est incroyable quand tu es dans l'obscurité, puis que tu ouvres cette petite lumière-là, puis tu vois tout en autour de toi, tu as une meilleure perspective, tu as une meilleure vision. Et je me rappelle un jour, c'est l'été de mes 17 ans, c'était dans ma première année, je venais de finir mon entraînement de fantassin, les push-ups, amenez-moi-en, j'étais capable d'en faire, j'aimais ça. On était sur la base de Valcartier, puis pendant une semaine, on était en concentration, qu'on appelle, c'est une simulation de guerre pendant une semaine. Fait qu'on se tient pas dessus pour de vrai, mais tu peux faire prendre prisonnier, puis tu risques de passer une nuit à pas trop dormir si tu te fais attraper par l'ennemi, là. Puis, fait qu'on jouait le rôle en position défensive ou en position d'attaque. Puis là, je me rappelle, là, toute ma vie, je vais me rappeler, on était dans nos tranchées. Ah non, c'était pendant mon cours de fantassin, c'est ça. Puis là, on était dans nos tranchées, puis des tranchées, là, c'est peut-être un mètre ou deux de profond. Puis là, t'es là-dedans, puis là, tu check, puis tu t'attends. T'attends le gars qui va venir t'attaquer, tu sais, là, c'est comme pas l'idéal, mais tu sais, t'es dans ta tranchée. Puis là, mon caporal-chef, il vient me voir un moment donné, il dit « Soldat Label », puis l'autre gars est avec moi, il dit « Suivez-moi, on s'en va vous poster un poste d'observation ». Alors moi, j'étais comme « Yes! » Poste d'observation, là, c'était comme 100 mètres en avant de tout le monde, t'es couché sur une petite butte, t'es camouflé au coton, t'as une radio avec toi. Puis si tu vois une patrouille passer, tout ce que tu fais, c'est que tu pognes la radio, tu dis à telle place, tel degré, tel endroit, il y a une patrouille qui vient de passer, arrangez-vous, tu sais, pour bien les recevoir. Fait que là, je m'en vais en avant, là, je suis tout excité, puis là, on a appris comment marcher dans le noir, puis là, tout à coup, mon caporal-chef, il dit « Stop! » Là, j'arrête. Là, il dit « Penchez-vous, les gars. » Il dit « Je pense j'entends du bruit là-bas. » Il dit « D'après moi, il y a une patrouille qui s'en vient. » Fait que là, moi, tu sais, j'écoute. J'entends rien. Je me dis, il hallucine, le pauvre. Tu sais, c'est... Mais lui, il a déjà été au vrai combat. Lui, il était en Bosnie. Lui, il était à Chypre. Puis il dit, la belle, passe-moi les lunettes de vision de nuit. Moi, j'aurais aimé ça les prendre, pour les garder, mais là, bon, c'est un capra-chef. Je donne mes lunettes de vision de nuit. Puis comme de fait, grâce à cet instrument-là, il était capable de détecter une patrouille qui arrivait. On était capable de virer de bord parce qu'on n'était pas rendu trop loin. Puis on a su bien les recevoir. Puis j'étais donc fier, tu sais, d'avoir été un des éléments qui participait là-dedans. Mais si on n'avait pas eu notre vision de nuit, on aurait été dans le trou parce qu'on aurait peut-être fait un face-à-face avec eux autres. Là. Et c'est une nouvelle perspective. Ces lunettes-là nous donnaient une lunette. Et ça nous permettait de bien voir, de voir clair. Et vous savez, ce matin, ce que je veux qu'on puisse faire tout le monde ensemble, c'est qu'on puisse apprendre à voir à travers les lunettes de Dieu. Parce que vous savez, mon patron, mon voisin, mon compagnon d'école, moi, je le vois avec mes yeux, avec les yeux de Jonathan. Des fois, je suis content que le monde ne voit pas qu'est-ce que je pense de mon voisin. Mais vous savez, Dieu, lui, voit les gens autrement que nous, comment on les voit. Dieu, il a une perspective différente de Jonathan Labelle. Dieu, il voit les gens autrement. Il ne voit pas juste qu'il frappe l'œil, mais il voit le cœur, il voit le potentiel, il voit le cœur des gens. Et Dieu, il ne voit pas comme nous. Et ce que je veux qu'on puisse faire ce matin, c'est qu'on puisse garder cette illustration-là, d'apprendre à voir les gens à travers les lunettes de Dieu. Comment est-ce que Dieu y voit mon voisin? Comment est-ce que Dieu y voit mon compagnon d'école? Comment est-ce que Dieu y voit même mon boss? Apprendre à le voir à travers les lunettes de Dieu. Et ce que je veux vous dire ce matin, à travers le livre de Jonas, c'est que Dieu, quand il regarde quelqu'un, des fois on peut avoir tendance à dire, ah, Dieu, il voit les gens, là, c'est un juge Dieu, là, il voit... comme André, là, tu sais, puis quand il était avec Jésus, « Hey, Seigneur, là, fais descendre le tonnerre, l'éclair sur ce monde-là, ils n'ont pas de bon sens. » Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, quand il voit les gens, quand il voit un peuple, quand il voit un individu, il voit avec plein de grâce, il voit avec plein de bonté, avec grâce et compassion. Et c'est ce que je veux qu'on puisse voir ce matin ensemble, qu'on puisse apprendre à voir à travers les lunettes de Dieu, comment est-ce que Dieu, il voit les gens plein de grâce et plein de compassion. Et avant que je débute, j'aimerais... simplement remettre ce temps entre les mains de Dieu. Prions. Papa du ciel, je te loue ce matin pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour chaque personne qui est ici ce matin. Toi, Seigneur, tu connais tous nos cœurs. Toi, Seigneur, tu veux nous voir avec grâce et compassion. Seigneur, ma prière ce matin, en débutant, c'est que tu puisses chasser toute préoccupation qu'on peut avoir dans la tête ce matin. Peu importe ce que c'est. Aide-nous à nous concentrer à écouter ta voix, pas celle de Jonathan, mais t'écouter à travers ta parole. Que tu puisses nous faire du bien ce matin. Qu'on puisse être encouragé. Qu'on puisse être béni. Et que lorsqu'on va sortir d'ici, ça puisse bénir les autres alentour de nous. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, à travers la vie de Jonas, on va regarder rapidement, on ne lira pas tout le livre de Jonas ensemble, mais je veux qu'on regarde à travers le livre de Jonas comment est-ce que Dieu est plein de grâce et plein de compassion. Et premièrement, on va voir que Dieu il est plein de grâce, il est plein de compassion à l'échelle individuelle, envers les individus. Et le premier individu, ce matin, on va regarder à petite échelle, c'est Jonas. Dieu, il est plein de compassion, il est plein de grâce envers Jonas. Vous pouvez tourner avec moi dans Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva, obéit à l'Éternel et alla crier contre Ninive. Non, j'ai une faute hein, dans ma Bible. Non, c'est pas ce qui est arrivé. Écoutez, Jonas, là, c'est sa job. Son travail, c'est de parler au nom de Dieu. Dieu lui parle, puis son travail, c'est d'aller voir les autres, aller voir les gens, puis parler au nom de Dieu. Et là, Dieu lui dit, Jonas, va-t'en à Ninive, la grande ville, parce que c'était une grande ville. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Puis il dit, va à Ninive, puis crie contre eux, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et vous savez, la ville de Ninive, c'était la capitale de la Syrie, puis c'était pas des enfants de cœur qui vivaient à Ninive. Elle était réputée pour être sanguinaire. On lit dans Nahum, en parlant de la ville de, Ninive, Nahum 3.1 dit « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. » Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est une ville qui était très barbare. Ils faisaient des choses atroces, ils persécutaient les gens. La ville où est-ce que Jonas y est, Jonas, lui, il vit dans le nord de la Galilée, puis il est dans la région de Galilée, puis Ninive, c'est juste un peu au nord. Et ils se font oppresser par ce peuple-là. C'est des personnes qui sont barbares, qui sont quand même cruelles. Et là, Dieu, il dit, « Pars et va-t'en parler à cette ville-là. » Et qu'est-ce que Jonas y fait? Il désobéit. Il désobéit à l'appel de Dieu. Et non seulement il désobéit, il fuit loin de la volonté de Dieu. Donc, non seulement il se met dans le trouble, le gars, là. Tu sais, sa job, c'est parler au nom de Dieu. Puis là, Dieu, il dit quelque chose. Puis Jonas, il dit, « No way, je m'en vais parler. Je vais pas parler à ce gang-là, moi. » Puis là, il s'en va dans la direction contraire. On dit qu'il fuit à Tarsis. C'était complètement dans la direction contraire. Le Seigneur, il me dit, « Jonathan, va prêcher à Montréal. » Moi, je m'en vais à cette île, Seigneur. Je m'en vais dans le sens opposé. Et désobéit à Dieu. Et là, on voit que Dieu lâche pas le morceau avec Jonas. À deux occasions, de manière miraculeuse, extraordinaire, Dieu, il va chercher, il va tendre la perche à son messager. Il veut aller chercher Jonas. Premièrement, on connaît bien cette histoire-là. Quand il s'enfuit, qu'est-ce qu'il fait? Il embarque dans le bateau, puis là, le bateau, il décolle pour s'en aller. Puis là, le Seigneur, il envoie une méga tempête. Puis Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher dans la cale du bateau. Il s'en va s'endormir. Puis là, la tempête est tellement grande que même les marins expérimentés dans le bateau qui sont, ils ne savent plus quoi faire. Ils commencent à acheter du stock par-dessus bord. Puis là, le capitaine, il va le voir dormir. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, implore ton Dieu, fais quelque chose. On va mourir. Puis là, il tire au sort pour savoir c'est à cause de qui le malheur qui arrive. Puis là, ça tombe sur Jonas. Puis Jonas, il dit, ben c'est à cause de moi, les boys. Parce que moi, j'étais un messager de Dieu. Puis je fuis loin de lui. Puis là, ils se sont dit, aïe, aïe, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Vous savez, Jonas, il aurait pu juste dire, Seigneur, OK, je suis sur le bord de mourir. Non. Il a le cœur dur, le gars. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pognez-moi, garochez-moi dans la mer. Il préfère mourir plutôt que de plier puis d'obéir à l'Éternel. Et là, les marins, ils lancent par-dessus bord, la calme revient. Wow! Puis le deuxième miracle qui arrive, Dieu, il dit, « Non, 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 j'ai pas fini avec toi, mon ami. » Dieu envoie un poisson. Le poisson, il mange pas, mais il absorbe Jonas. Puis pendant 3 jours, il est dans le fond du poisson. Dieu, il a pas abandonné avec Jonas. Et vous savez, personnellement, j'aurais abandonné bien avant. Moi, avec mes yeux de Jonathan Labelle, d'être humain, j'aurais fait, tu veux pas parler pour moi? C'est correct. Next. On passe au prochain, puis on va s'en trouver un autre. Non, mais tu sais, écoute, là, j'y donne une job, le gars, il m'écoute pas. J'ai envoyé une tempête. Non, 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 on passe au prochain, là. Mais Dieu, comment qu'il voit Jonas? Plein de grâce. Il voit Jonas plein de compassion. Il veut faire quelque chose avec lui. Il a beau être la tête la plus dure, il a beau préférer mourir, Dieu, lui, ne l'a pas abandonné. Dieu, il était plein de compassion pour lui. Dieu a voulu prendre soin de lui. Il a envoyé un poisson, puis dans le fin fond de la mer, dans le fin fond, il était rendu creux, le gars. Là, finalement, Jonas, il cède. Pardon, Seigneur. On peut voir dans le chapitre 2 de Jonas qu'il chante un cantique au Seigneur, puis à la fin du cantique, il dit, « J'exaucerai les vœux que j'ai faits envers toi. » Dieu, il est plein de compassion. Il est plein de grâce envers son serviteur, Jonas. Une fois rendu au bas fond, il se reprend. Pas d'une manière très glorieuse. Et remarquez comment est-ce qu'il a fallu qu'il descende. T'sais, il est descendu moralement bas. Mais regardez, il est descendu à Tarsis. Il est descendu dans la cale du bateau. Il est descendu dans les profondeurs de la mer. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu obéir au Seigneur. Mais Dieu, plein de grâce, plein de compassion pour lui, envoie un poisson et après, rejette Jonas sur la plage. Dieu a voulu prendre soin de lui. Moi, j'aurais passé à côté. J'aurais passé au prochain. Mais pas Dieu. Dieu, il est plein de compassion et de grâce envers Jonas. Mais je veux vous dire ce matin que le Seigneur, il est plein de grâce. Il est plein de compassion envers chacun d'entre nous. Chacun de nous ici ce matin, c'est la même grâce, la même compassion que Dieu y a envers nous. Est accessible. Ce matin, est-ce que tu es en fuite devant l'Éternel? Il n'est pas trop tard. La main de Dieu n'est jamais trop courte pour venir nous saisir. Ce matin, est-ce que tu as manqué le bateau? Ah, moi, je le manque souvent, le bateau. Ah, des fois, je me décourage. Mais la grâce et la compassion de Dieu, il n'y en a pas de bout à la grâce et la compassion de Dieu. Dieu, il est toujours là. Il veut toujours venir nous saisir. Est-ce que tu es au bout du rouleau? Peut-être ce matin, tu es dans le fond du baril. Peut-être qu'il n'y a plus de solution devant toi ce matin. Tu es peut-être découragé de ta vie, découragé où est-ce que tu en es. Sache que la grâce et la compassion de Dieu est là. J'ai goûté à la grâce et la compassion de Dieu depuis des années. Quand j'avais 19 ans, j'étais dans le fond du baril. Je ne voulais plus rien savoir de Dieu. Dieu n'avait pas fini avec Jonathan. J'aurais jamais, puis encore moins ma famille, puis le monde avec qui je me tenais, pensé que je deviendrais un jour prédicateur. Hey, j'y trouvais donc bien bizarre, moi, ce monde-là. Les zélés, les Jesus Power, que je les appelais, hein? J'étais rebelle. J'étais dans le fond du baril. Mais la main de Dieu était là. Sa grâce était encore disponible, sa compassion. Et vous savez, à tous les jours, c'est la même histoire. Parce qu'à tous les jours, Jonathan, là, il pêche contre l'Éternel. À tous les jours, des fois, ça me décourage. Comment est-ce que je peux dire, « Ah, il a été encore pogné là, man. » Mais la grâce et la compassion de Dieu, à tous les jours, est là. Et c'est la même chose pour vous ce matin. Peu importe ta situation, Dieu est plein de grâce et compassion pour toi. Dieu est plein de grâce et de compassion à l'échelle, à petite échelle, mais aussi à grande échelle. Dieu, il veut nous toucher personnellement, mais ensuite, il veut toucher à l'entour de nous. Il veut que ça se propage, cette grâce-là, cette compassion-là. Parce que moi, quand je goûte à la grâce de Dieu, quand que je réalise à quel point Dieu me pardonne, comment est-ce que Dieu, il est bon envers moi, comment est-ce qu'il, ça dépend pas de moi, mais de qu'est-ce que lui, il fait pour moi. Ça peut juste déborder, puis je veux que ça paraisse en l'entour de moi. Et Dieu, il est pareil. Et il était plein de grâce et de compassion envers la ville de Ninive. Dieu se sert de Jonas après qu'il ait décidé d'obéir. Au chapitre 3, Jonas, il dit, « OK, Seigneur, je vais y aller. » Il va dans la ville de Ninive et un miracle survient. Probablement, le plus grand réveil de la parole de Dieu survient là. Incroyable! Jonas, il va dans la ville pendant 3 jours et il crie contre Ninive. Tourne avec moi, chapitre 3, verset 1. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Il va dans la ville une journée de marche, il crie le jugement et qu'est-ce qui se passe? Le roi entend ce qui se passe, il s'humilie, déchire ses vêtements, revêt les cendres, ça c'est un signe d'humiliation. Il proclame un jeûne à tout le monde dans la ville de Ninive, il dit « Hey! » Dieu va nous envoyer un jugement. Humilions-nous, peut-être qu'il va nous sauver. Et toute la ville s'humilie. Wow! Une ville de 3 jours de marche. On dit qu'elle avait probablement 100 km de circonférence, la ville de Ninive. Imaginez-vous une ville comme Trois-Rivières, une ville comme Montréal, en une journée, qui se repent et qui donne gloire à Dieu, qui confesse son péché. Incroyable! Une ville remplie de pécheurs. N'oubliez pas, Ninive, c'était pas des enfants de cœur, là, je vous ai dit. C'était des guerriers, c'était du monde qui était barbare, c'était des gens cruels. Mais Dieu il leur fait miséricorde. Verset 10 du chapitre 3, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'ils avaient résolu de leur faire et ne le fit pas. » Elle méritait de brûler. Elle méritait d'avoir la colère de Dieu. Mais Dieu, à travers ses lunettes, Dieu, à travers sa bonté, plein de grâce, plein de compassion pour cette ville-là. Et il leur pardonne. Une des leçons que je retire quand je vois ça, c'est que quand il y a un messager qui parle, il y a des fruits qui arrivent. Jonas a finalement obéi, puis Dieu a sauvé Ninive. Vous savez, on n'a pas besoin d'être le meilleur communicateur au monde pour parler de Dieu en l'entour de nous. Moi, quand je regarde Jonas, là, hey, il a pas mis le paquet, là. Regardez qu'est-ce qu'il dit au chapitre 3, verset 3. « Et Jonas se leva, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, verset 4. Il fit le tour de la ville et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » On est loin là de des techniques incroyables. Que, pas que j'ai rien contre nos techniques d'évangélisation, c'est bien, il faut qu'on apprenne à témoigner. Mais ce qui est là-dedans, c'est que Jonas a finalement obéi, puis Dieu a béni, puis Dieu a usé de grâce et de compassion. Tout ce qu'il a fait, lui, c'est faire ce que Dieu lui demandait. Il a obéi, puis il a parlé du message. Et vous savez, Dieu, il veut encore sauver ici, dans notre région. Dieu, il veut encore sauver dans la ville de Trois-Rivières. Et il veut qu'on puisse simplement le laisser parler à travers nous. Dieu veut accomplir des choses incroyables ici, dans la région de la Mauricie. Il veut user de compassion et de grâce, qu'on puisse mettre nos lunettes de vision de nuit, qu'on puisse mettre les lunettes de Dieu pour voir notre voisin, voir les gens alentour de nous comme Dieu, il les voit. Il s'agit seulement qu'on laisse Dieu agir à travers nous. Je ne sais pas si vous connaissiez Tante Marianne. Tante Marianne, c'était mon prof d'école du dimanche quand que j'étais un jeune adulte. Quand je suis revenu au Seigneur, j'étais dans sa classe d'école du dimanche. Et Tante Marianne nous soutenait beaucoup dans notre ministère, à mon épouse et moi, quand on était avec Parole de vie. Et un jour, on a été manger ensemble. Et le lendemain, elle m'a écrit un courriel que je vais me rappeler toute ma vie. Et je vais vous le lire parce que je l'ai écrit mot pour être sûr de vous dire la bonne chose. Mais en quelque part, dans son courriel, elle dit, en parlant de elle et Tante Carole, elle dit, « Nous avons hâte de voir ce que vous permettrez à Dieu de faire dans votre vie. » Ça, c'est Tante Marianne. Elle m'a pas dit, « J'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire. » Elle a dit, « Qu'est-ce que tu vas permettre à Dieu de faire à travers ta vie? » Parce que Jonathan Labelle est la seule limite de Dieu pour agir à travers ma vie. Et ça m'a frappé. Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers moi. Mais je dois laisser le contrôle à Dieu. Je dois lui dire, c'est beau Seigneur, je te laisse aller. Et finalement, la réaction du gracier. Quelle était la réaction de Jonas? Alors, on aurait pu croire que dire, hey, Jonas, il a vu Ninive se repentir. Yeah! Dieu, il est grand! Dieu, il est plein de compassion envers Ninive! Yeah! C'était loin d'être ça. Chapitre 4. Cela plut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Oh! Là, on voit le cœur de Jonas. Je voulais éviter ça, moi, en m'en allant. Je n'avais pas peur d'eux autres, parce que je savais que tu étais un Dieu plein de compassion. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Jonas désirait la perte de Ninive. Il préférait mourir que de voir ses ennemis être rempli de compassion et du pardon de Dieu. Vous savez, Jonas, il n'a vraiment pas la bonne attitude. Ce n'est pas un modèle en ce moment-là d'attitude. Mais il connaissait l'Éternel. Il connaissait son Dieu. Il savait que Dieu était plein de grâce, plein de miséricorde. Il savait comment est-ce qu'il était. Puis c'est la raison pourquoi il avait fui. Il avait jugé que la ville de Ninive n'était pas assez digne de recevoir l'Éternel. Et vous savez, combien de fois dans ma vie est-ce que sais, j'ose pas parler de l'Évangile. Parce que je me dis, Seigneur, lui, tu seras jamais capable. Je le dis pas, là, tu sais, c'est pas ça que je dis dans mon cœur, là. Mais c'est ça que ça veut dire, parce que je me rappelle, là, j'avais un poste, là, quand j'habitais à Chicoutimi, là. Ah, il m'en a donné des mots de vente, ce boss-là. Ah! Puis là, il m'a dit, apportez l'Évangile à lui, voyons donc, Seigneur. Il a trop une tête dure, lui, tu seras jamais capable de toucher son cœur. Mais c'est pas à moi, Jonathan Labelle, de décider qui est-ce que Dieu il veut toucher. Dieu il demande à Jonathan de parler de son fils, puis lui, il va faire les miracles. C'est pas à moi. Et lorsque je réalise ce que je veux pas faire ce matin, écoutez-moi bien, je veux pas vous mettre un fardeau sur le dos et dire, allez parler à votre voisin, là. Come on, là. Non, ce que je veux vous dire ce matin, là, c'est que j'ai tellement été béni, j'ai tellement reçu de la grâce de Dieu, j'ai tellement reçu de la compassion de Dieu que je peux juste pas m'en empêcher de m'en parler. Et si vous êtes pas au point que vous avez été touché de Dieu et que vous voulez que ça déborde ou que ça déborde, mettez-vous pas la pression d'aller en parler, mais revenez à Dieu, venez à Jésus, puis laissez-lui vos fardeaux. Dites, Seigneur, j'en ai besoin de ta grâce, j'en ai besoin de ta compassion, de ta miséricorde, parce que moi, je suis pas capable. Et là, on voit Dieu utiliser une super belle leçon d'objet. Verset 5 du chapitre 4. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qu'il arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Et trois fois qu'il y a mieux mourir que de voir Dieu être plein de miséricorde. Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et les animaux en grand nombre. » Jonas, il sort de la ville. Il se fait une petite cabane en haut de la montagne, là, puis il attend de voir ce que Dieu va faire. Dans son cœur, lui-là, là, il veut le voir, là, le feu tomber du ciel. Il veut voir la colère de Dieu tomber. Puis Dieu, il vous donne une belle leçon. Il fait pousser une plante au-dessus de lui. Non, mais le gars, il est désobéissant à l'os. Le gars, il fuit, il a un cœur dur devant Dieu. Dieu continue à le bénir. Il continue à prendre soin de lui. Il fait pousser une plante au-dessus de sa tête, ça lui donne de l'ombre. Puis là, là, sa petite plante, là, ça, il amène donc de la joie. Oh! Là, il y a de l'ombre, là! Il est bien, là! Ça y amène, là! Ça le comble! Puis là, Dieu, il envoie un petit verre, la plante, elle meurt. Puis là, le lendemain, il est fru ben raide, comme les jeunes diraient. Il est frustré contre Dieu. Puis Dieu, il dit, toi, là, la petite ombre, là, ça te donne de la joie au bout. Ça t'a rien coûté, ça pousse en nuit, ça meurt en nuit, mais moi, voir un peuple comme ça, qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, périr, ça devrait pas me toucher, ça devrait pas te toucher. Combien de fois est-ce que je me rends compte que je suis comme Jonas? Ah, que mon jeu sur mon iPhone, là, ça m'apporte de la joie, là. L'iPad, mon char, ma carrière, là, ça m'apporte toute ma joie. Puis là, s'il faut que mon iPhone, il lâche. Ah! Si ça m'arrive pour vrai, watchez-moi bien cette journée-là, ça sera pas beau à voir. C'est mon cerveau, ça, là. Mais, il lâche pas, lui, tu sais. Quand il dit à telle date, un rendez-vous, Mais ça m'apporte souvent plus de joie que de voir Dieu travailler alentour de moi. Et je veux mettre les lunettes de Dieu pour voir qu'est-ce qui va vraiment m'apporter de la joie. Je veux mettre les lunettes de Dieu pour voir les autres avec plein de grâce, plein de compassion. Et c'est pas mauvais d'avoir un iPhone. Merci Seigneur. c'est pas mauvais d'aimer notre carrière. C'est pas mauvais d'aimer notre char puis de vouloir le shiner, notre auto. Dieu, même qu'il se plaît de nous voir prendre, de jouir de ces bénédictions-là qu'il nous donne. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse être touché premièrement, qu'on puisse goûter à sa grâce, goûter à sa compassion et qu'on puisse déborder aux gens alentour de nous, qu'on puisse garder cette perspective-là. J'aimerais en terminant vous raconter une histoire qui est un modèle pour moi, cette petite fille. On raconte qu'un évangéliste qui s'appelait Blackburn allait voir une petite fille qui était mourante. Il lui dit, « Ne voudrais-tu pas guérir? » La petite fille lui répondit, « Non, parce que depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai essayé d'amener papa à la salle de réunion, mais il n'a jamais voulu venir. Et je pense que si je meurs, papa sera bien obligé d'aller à mon enterrement. Vous pourrez prêcher l'Évangile et vous lui direz combien Jésus l'aime. Oh, je mourrais bien 6 fois pour qu'il vous entende au moins 1 fois parler de Jésus. » Peu de temps après cet entretien, la fillette mourut. Quelque temps plus tard, un homme au visage rude vint trouver Blackburn. Je suis le père de la petite Mary. Lors de cette visite, je me suis caché, car je n'aime pas les hommes qui parlent de Dieu. Mais j'ai entendu mon enfant vous dire qu'elle mourrait 6 fois pour que je puisse vous entendre prêcher l'Évangile au moins 1 fois. Je ne pus enlever cette pensée de mon esprit. J'ai essayé, mais il n'y a rien à faire. Alors dites-moi maintenant ce qu'elle désirait tant que j'entende. Très vite, cet homme trouva le chemin du salut. Je veux avoir cette attitude-là, de cette petite fille-là, qui préférait voir son père entendre l'Évangile, voir son père goûter à la miséricorde et à la grâce de Dieu, plutôt que d'être guéri et vivre. Je veux que chacun d'entre nous ce matin, quand on va quitter ici, qu'on puisse réaliser comment est-ce que Dieu est plein. Et plein de bonté envers chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas rendu trop bas. Si vous pensez que vous êtes rendu trop bas, là, pensez à Jonas. 3 fois, il dit qu'il est mieux mourir que d'obéir à l'Éternel. Mais pourtant, Dieu était plein de bonté et de compassion envers lui. Et qu'on puisse laisser déborder cette grâce, cette compassion en l'entour de nous, à nos proches. Qu'on puisse avoir cette même attitude que cette petite fille avait. Si on est encore ici ce matin, c'est parce que Dieu, Jésus, il va encore toucher des gens. Peut-être que je pense qu'il ne sera pas capable de toucher mon voisin, mais Dieu, il est plus puissant que ce que je pense. Prions. Papa du ciel, merci pour cette histoire de Jonas, Seigneur, qui me rappelle comment est-ce que tu es bon, qui me rappelle comment est-ce que tu veux prendre soin de chacun d'entre nous. Ah, Seigneur, je te prie que s'il y a des gens ici ce matin qui sont dans le fond du baril, qui sont au bout du rouleau, qui pensent qu'ils sont rendus trop loin, ah, Jésus, je te demande de toucher leur cœur. Fais-leur goûter ta grâce. Prends soin de leur cœur. Fais-leur goûter ta compassion. Bénis-les. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous qui te connaissons depuis tant d'années. Aide-nous à chaque jour à se rappeler comment est-ce que tu es plein de bonté et de miséricorde envers nous. Aide-nous à le réaliser au point que ça déborde. Au point que je ne peux pas m'empêcher, Seigneur, d'aimer mon prochain. Je ne peux pas m'empêcher d'aller te servir. Je ne peux pas m'empêcher de parler de toi. Que ça ne puisse pas être un fardeau, Seigneur, une tâche à accomplir. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'on goûte à ta grâce et qu'on la transmette. Merci pour ta bonté. Merci de nous voir à travers des lunettes différentes de les nôtres et qu'on puisse voir à travers ces mêmes lunettes. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
Est venu le chercher, mais qu'on doit aussi dépendre de cette même grâce et de cette même miséricorde pour nous amener plus loin.